RMC. Grand Plateau. Christophe Cessieux.
Salut à tous. Mais où s'arrêtera-t-il après ses triomphes sur le Giro et sur le Tour de France? Tadej Pogacar a parachevé une saison extraordinaire hier en ajoutant un nouveau maillot à sa collection, celui de champion du monde. Après le rose et le jaune, voici donc l'arc-en-ciel pour Poggi, auteur d'un des plus grands exploits de sa carrière hier à Zurich. 100 km à deux, puis tout seul, face à la meute lancée à ses trous. C'est dans Grand Plateau aujourd'hui. On va évidemment revenir sur cet exploit qui a sidéré tout le monde, notamment ses adversaires qui n'en croyaient pas à leurs yeux. Et pourtant, Dieu sait si Van Der Poel et Evenepoel nous ont habitués, eux aussi, à ce genre de performance hors du commun. Poggi, qui a 34 ans après Stephen Roche, ou même 37 et 50 après Eddy Merckx, devient donc le troisième coureur de l'histoire à s'emparer de la triple couronne, Tour d'Italie, Tour de France et Championnat du Monde. Couronne symbolique, hein. Poggi n'a pas enfilé de véritable couronne hier à Zurich. Alors quelle valeur accorder à cet exploit? Et que lui reste-t-il encore à aller chercher pour devenir le plus grand de tous les temps? Reconnu d'ailleurs par Eddy Merckx, qui dit qu'aujourd'hui Pogacar est plus fort que lui. On reviendra également sur la désillusion française de ces mondiaux, désillusion à tous les niveaux, chez les garçons évidemment, avec l'abandon sur chute du leader des Bleus, Julien Alaphilippe, chez les filles également, où l'on attendait beaucoup du retour de Pauline Ferrand-Prévot sur la route, oui, mais ça n'a pas fonctionné là non plus. Et pour évoquer tous ces sujets, l'équipe de Grand Plateau, composée aujourd'hui, s'il vous plaît, de Jérôme Coppel, Arnaud Souk et Pierre Cotchette. Salut les garçons.
Salut à tous.
Salut les gars. Salut, salut.
Alors messieurs, avant d'entrer dans le détail de cette course, tout d'abord, votre impression générale sur ce championnat du monde. Est-ce que pour vous, c'est une course de légende qui restera dans les annales, ou c'est un mondial finalement couru d'avance et presque décevant? Jérôme, on va commencer par toi et on va ensuite aller vers nos journalistes.
Alors pour moi, c'est une course de légende, clairement. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a jamais eu un scénario comme ça. Le vainqueur qui part à plus de 200 km de l'arrivée, qui fait plus de 50 km en solitaire, on y reviendra plus tard. Et puis, au-delà, alors oui, une fois qu'il est parti, la course était peut-être déjà pliée à 100 km de l'arrivée. Mais après, pendant 3 heures, on a eu de la castagne tout le long, même derrière, pour aller faire deuxième, troisième. On a vraiment eu 3 dernières heures de course de folie. Donc voilà, c'est Pogacar qui a mis le feu aux poudres. Mais après, il y a eu de la course toute la journée. C'était vraiment un gros chantier. Moi, je me suis vraiment régalé tout l'après-midi à regarder ces championnats du monde. Et ce n'est pas toujours le cas quand même. Donc, entre les JO et les championnats du monde, on a eu des sacrées belles courses.
Mm-hmm. Arnaud, est-ce que tu t'es régalé autant
honnêtement,
pour les Jeux Olympiques? Tu as trouvé que c'était...
Honnêtement, oui. J'ai trouvé ça même moins couru d'avance. Parce que Pogacar, finalement, il part à 100 km de l'arrivée. Moi, je trouve ça déjà en soi bien joué. Je ne me dis pas il va aller au bout. Je me dis déjà en soi, c'est bien joué parce que derrière, t'as l'équipe de Belgique qui roule et il va essorer l'équipe de Belgique. Et bon, finalement, ça revient pas, mais c'est pareil que Jérôme, il y a eu de la castagne. Donc, moi, je trouve que le suspense, il a quand même été quasiment jusqu'au bout. Même nous, dans le feu du direct, on s'est demandé si Pogacar allait pouvoir aller au bout. On a vu l'écart redescendre en dessous des 40 secondes. Franchement, je me suis régalé.
Ouais. Pierre ?
Alors, pour moi, c'est une performance de légende. C'est pas forcément une course de légende, mais la performance de Pogacar, elle est légendaire. Et partir à 100 mètres comme ça, où tout le monde... Alors moi, je me suis dit, il fait n'importe quoi.
Mais comme tout le monde.
Apparemment, ouais. J'étais pas le seul à me dire ça. Remco et Mathieu Van Der Poel aussi. Après, pour moi, j'ai trouvé que c'était la victoire du cyclisme moderne au potentiomètre, au capteur de puissance, où en fait, Pogacar a éliminé toute l'incertitude du jeu de course, de l'influence, de je me mets avec un tel contre un tel, enfin de tout ce qui fait un peu aussi la saveur de la course. Et c'est pour ça que je ne trouve pas forcément que c'est une course de légende, c'est que tout ça, ça s'est joué à un deuxième degré pour la médaille d'argent, pour la médaille de bronze. Mais en revanche, la performance est de légende parce qu'il était le plus fort et que le meilleur moyen de le prouver, c'est de partir tout seul et d'éliminer après tous les enjeux de si je roule avec lui, est-ce que lui va rouler avec moi, et ça il l'a laissé aux autres, mm-hmm. qui eux du coup n'ont pas pu aller à leur maximum. Après eux ont dû jouer à composer, à se mettre d'accord tous les 3, tous les 4, tous les 5 plus forts pour revenir sur Poggi. Ils auraient peut-être pu le faire, mais ils n'ont jamais évidemment pu se mettre d'accord.
Ce beau maillot arc-en-ciel qui est comme prévu, donc est désormais la propriété pour une année de Tadej Pogacar, qui n'a pas fait de détails hier autour du lac de Zurich.
Tadej Pogacar qui n'a plus que quelques coups de pédale à donner. Il donne de ligne de la tête, il passe de la gauche de la route vers la droite de la route. Oui, 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 Tadej Pogacar va le faire. 50 ans après Eddy Merckx le Belge, 37 ans après l'Irlandais Stephen Roche, lui aussi va se parer de la triple couronne, vainqueur du Giro au mois de mai, vainqueur du Tour de France au mois de juillet. Tadej Pogacar va devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Il se met la main devant la bouche, le coude sur le genou, d'un air de dire je n'en reviens pas. Quelle journée pour Tadej Pogacar. Il a éparpillé la concurrence à 100 km de l'arrivée et au terme d'une échappée en solitaire de 51 km, il est sacré champion du monde 2024.
Voilà le final donc commenté par Arnaud avec Jérôme Coppel. Alors 50 km effectivement en solitaire. Auparavant, il avait fait 50 km avec Sivakov ou avec Tratnik. Hein,
en fait, il part à 100 km. Il se retrouve tout seul à 78 km de l'arrivée avec Sivakov. Il va faire 27 km avec Sivakov en gros. Hein, c'est ça. Et à 51 km. C'est même pas qu'il le lâche. Hein, il attaque pas Sivakov. C'est juste Sivakov qui peut pas suivre dans la zone.
Il aurait bien aimé d'ailleurs que Sivakov l'accompagne qu'au bout.
Oui, mais il l'a attendu, hein, Jérôme. Hein, souviens-toi. Ouais. Il l'a attendu notamment au moment où il éparpille l'échappée, donc à 78 bandes de l'arrivée. Sivakov est le seul qui semble pouvoir suivre. Il l'attend un petit peu justement parce que les deux, on rappelle, roulent aussi dans la même équipe à longueur d'année. Donc voilà, il a pris quelques petits relais quand même sur des parties plates.
Ouais, mais c'était bien joué parce que Pogacar, il sait qu'il est très fort, mais il a bien compris que partir à 100 km de l'arrivée, se retrouver tout seul ou à deux à un peu moins de 80 km de l'arrivée, ça allait être compliqué. Même si tu t'appelles Pogacar, t'es quand même jamais à l'abri d'un coup de fringale. Donc, il était tellement fort qu'il n'y a que Sivakov qui a réussi à s'accrocher plus ou moins comme il pouvait. Et encore, pendant 25-30 km, on voyait bien que Pogacar l'attendait dans les bosses pour que Sivakov puisse lui donner un ou deux relais sur le plat. Et puis, je pense que si c'était pas Sivakov, est-ce que Pogacar aura attendu? Parce qu'un autre coureur qui court pas le reste de l'année avec lui, est-ce qu'il va lui prendre des relais sur le plat? C'est pas sûr. Si vous avez un mec qui est chez Movistar, Jumbo ou je sais pas quoi, bah peut-être que sur tous les tours où il arrive à s'accrocher à Pogacar, il va pas lui prendre un seul relais, donc il aurait servi à rien. Et finalement, ces petits relais que Sivakov a pris, qu'au moment où il commençait, ou en tout cas il donnait l'impression de coincer et que les autres étaient revenus à moins de 40 secondes, c'est peut-être ça qui lui a permis d'aller au bout.
Moi, j'ai quand même été fasciné par il s'est échappé à 100 km de l'arrivée, il a jamais eu plus, je crois, d'une minute 3
une
ou 4
mille, ouais,
d'avance.
C'est vraiment juste
c'est quand même fascinant de rester avec cet écart qui est minime, hein, qui
surtout
est de l'ordre de quelques centaines de mètres.
Le nombre et le nom des mecs qui sont
oui,
derrière.
Et puis quand tu sais ce que ça engendre, et on en a parlé hier aussi en direct, le fait de pas avoir de voiture d'équipe à ses côtés, sachant que c'est une course sans oreillette, il y avait juste la voiture d'assistance neutre. Qu'est-ce qui se passe si jamais il crève? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui, tout simplement? C'est quand même assez fascinant. Il y a eu un long moment où il était autour des 45 secondes d'avance. Je sais pas, c'est quelque chose que je trouve vraiment impressionnant, quoi.
il a dû trouver le temps bien long, hein, quand même, parce que même si vous êtes à l'avant de la course sur un championnat du monde tout seul, les kilomètres défilent quand même pas très vite, hein. Il a quand même dû s'ennuyer un petit peu, mais ça, c'est heureusement, parce que rappelez-vous, Van Vleuten en 2019, elle a été championne du monde à Harrogate. Elle était partie aussi à 104 ou 110 km de l'arrivée. Elle, par contre, elle avait tout de suite creusé. Elle termine avec quasiment 3 minutes d'avance. Voilà, là c'est plié.
La
heureusement pour nous.
Peut-être pas la même aussi.
Oui,
pour
bien sûr, bien sûr.
Ouais,
c'est clair. Elle dominait encore plus que Poggi, je pense, dans le cyclisme féminin. Mais heureusement pour nous, finalement, que cet écart, il est toujours resté 40 secondes, une minute.
Heureusement que les
coureurs derrière y ont toujours un petit peu cru. Et pour pas grand-chose, peut-être, le coup de Pogacar n'aurait pas été payant.
Et souvenez-vous, il y a deux semaines, on débriefait la victoire de Pogacar à Montréal. Et pareil, il était parti beaucoup trop tôt. Ben là, c'était 27 km, mais c'était quand même trop tôt, un tour avant. Et pareil, il avait plafonné à même pas une minute, entre 45 secondes et une minute. Et on se dit, mais pourquoi il n'arrive pas à creuser? Pourquoi? En fait, c'était une répétition. C'était une répétition de ce qu'on a vu.
Oui, mais bon, ça n'a pas servi de leçon puisqu'il est parti.
Non, et puis alors,
plus loin,
non seulement ça n'a pas servi de leçon, mais en
prévu.
Plus, il l'a dit, bah non, c'était pas prévu. Enfin, manifestement, c'était pas prévu puisqu'il a dit, c'est stupide ce que j'ai fait après la course. Donc, c'est que ça devait pas être complètement prévu, effectivement.
Mais quand il a attaqué, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, je sais même pas si c'était essoré, mais c'est plus, j'ai comme eu l'impression qu'il était énervé parce qu'il avait ces gars qui roulaient depuis le début. Il en avait plus beaucoup en plus à ce moment-là. Il avait plus que Domen Novak et puis Roglic, puis toutes les autres nations commençaient déjà à l'attaquer. C'était moi, j'ai l'impression qu'il se disait, allez, ok, je mets un coup de poing sur la table, je leur monte un petit peu et puis tout le monde va se calmer, je vais garder Novak et on va continuer
comme ça. Oui, parce qu'il avait fait ce
genre de choses sur le
tour. Et finalement,
il a paillé tout
le monde. Jérôme, il me semble me souvenir que sur certaines étapes dans le tour, il avait tenté d'attaquer dans un premier temps et puis c'était remis sur sa selle avant d'attaquer plus loin.
Mais non, mais ça lui arrive régulièrement. Il a fait ça, je sais pas combien de fois, même sur des plus petites courses, hein, sur Paris-Nice, ça lui est arrivé à de nombreuses reprises. Il essaie juste de mettre le danger, quoi. Moi je trouve qu'il a aussi quand même le mérite. Je sais pas si vous avez revu les images de l'attaque. Bon, il se place un petit peu quand même en tête de peloton à un endroit où certes tu peux légitimement pas t'attendre quand tu t'appelles Mathieu Van Der Poel ou Remco Evenepoel à te faire attaquer à 100 km de l'arrivée, mais n'empêche qu'eux ils sont moins bien placés objectivement. Voilà.
Et je pense que c'est pour ça qu'il continue Pogacar finalement. Je crois qu'il met une petite attaque un peu comme on l'a dit pour voir un petit peu, puis d'un coup il se rend compte que Remco Evenepoel sont mal placés, Van Der Poel aussi, et dit bah allez, maintenant feu, j'y vais. Et là il y a quand même eu une petite erreur, je pense, de la part de Van Der Poel et de Remco Evenepoel, parce que la course aurait pu être complètement différente s'ils avaient été dans la roue. Peut-être que Pogacar, et certainement, il n'aurait pas poursuivi son effort, mais ça aurait pu changer la donne.
Mais on va les écouter dans quelques instants, mais le problème, c'est qu'ils n'y croyaient pas du tout à 100 km de l'arrivée, un peu comme nous tous ici. Ils ne pensaient pas qu'il allait reproduire et faire encore mieux que son échappée sur les Strade Bianche, parce que là aussi...
C'était quoi, 80 km sur les Strade Bianche.
Bon, l'opposition n'était pas la même au début de la saison, Pierre. Hein, c'était pas du tout...
c'était pas la même. C'était pas mal, hein, quand même, ces Strade Bianche.
Je me rappelle plus qu'il y avait dans le peloton ce jour-là.
Mais c'était pas ce niveau-là. C'était pas aussi ce parcours-là, parce qu'il y avait beaucoup moins de prise au vent qu'il y avait là forcément à Zurich.
Ouais. Alors, on va écouter les adversaires donc de Tadej Pogacar, évidemment, parce que cette tentative a laissé tous ses adversaires dubitatifs. Vous allez l'entendre, pour Remco, la réussite de Poggi est même presque anormale.
À 100 km de l'arrivée, tout le monde pense que c'est trop tôt, donc je pense que j'étais pas le seul qui était juste un peu dans le groupe, bien positionné, mais pas dans l'offensive, donc je pense que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de pas normal, mais c'est le vainqueur mérité, ça c'est sûr, mais je pense que dans le dernier tour, il commençait quand même à souffrir un petit peu, ce qui est normal, parce que, bon, il était déjà 80 km dans l'attaque, mais j'étais dans un bon groupe avec Mathieu, avec des autres bons coureurs, donc je pense que c'était clair que ce parcours était vraiment demandant, mais bon, j'ai sorti le maximum, je pense.
Qu'est-ce qui n'est pas normal ?
Remco Evenepoel au micro de nos confrères de la RTBF.
Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Je ne comprends pas, en fait. Il a fait quelque chose qui est contraire aux us et coutumes de la course, Pogacar ?
On voit beaucoup des mecs qui attaquent
la course. Je pense qu'il veut dire que c'est pas malin. Il ne veut pas dire que c'est interdit.
Oui, mais c'est pas malin. Pourquoi c'est pas malin ?
Non, je pense que...
Ça a mis toute la Belgique à la planche. Moi, je comprends qu'il soit énervé, Remco Evenepoel. Forcément, il s'est fait essorer.
Je sais pas si c'est vraiment, il disait pas normal, genre pas normal de faire ça, ou si c'est un truc vraiment incroyable, tu vois. Je sais pas si c'est son français dans la syntaxe qui est pas vraiment bon. Moi, je le prends plus dans le sens purée, c'est complètement dingue ce qu'il a fait. Il est parti, c'était suicidaire, et puis finalement ça a marché. Et puis c'est ce qu'on s'est tous dit d'ailleurs.
Alors, autre son de cloche, on va voir ce qu'en dit Mathieu Van Der Poel, troisième du championnat du monde hier et qui était champion du monde sortant. Lui aussi, il a été surpris par la tentative de Tadej Pogacar.
C'est incroyable, je n'ai jamais vu une telle performance sur une course. On sait que c'est un coureur exceptionnel et il nous l'a encore prouvé aujourd'hui.
Incroyable, voilà. Pour Van Der Poel, c'est pas anormal, c'est incroyable. Bon, ça, on est tous d'accord avec lui, c'est incroyable. Tout le monde avait du mal à y croire.
Ben, je vous rappelle le scénario du titre de champion du monde de Van Der Poel l'an passé, qui a éparpillé tout le monde sous la pluie, qui a mis 2 minutes à Pogacar, qui a fait exploser tout le monde à 100 km de l'arrivée. Oui, il y avait plus que 10 mecs sur le circuit. Non, mais,
mais ils étaient partis. Soyons
sérieux.
Il était parti, mais il n'était pas parti tout seul.
Soyons sérieux, il gagne quand même l'an passé avec une cale de pédale cassé sur 20 km. Mais donc soyons sérieux.
Il part et il part pas tout seul. Il part Van Aert et Pogacar, ils sont avec lui avant.
Au final, il fait quand même pas loin de 25 km tout seul.
Ah oui,
mais 25
chose que fait également.
25, Arnaud, c'est normal, c'est dans la coutume du cyclisme, c'est les 100 km qui.
En fait, la logique aurait voulu
le chiffre symbolique des 100 bornes qui.
La logique aurait voulu que Remco et quelques-uns, et une petite dizaine peut-être, et Van Der Poel suivent Pogacar, écartent tous les lieutenants, et qu'après, ils s'expliquent dans les 25 dernières bornes au plus fort. Le fait est que personne n'a cru à ce scénario, en tout cas pas Remco et pas Van Der Poel, qu'on préférait rester au chaud et qu'on cramait leur équipe, et qui après ont essayé de faire travailler les autres. Ça a évidemment échoué, on a tous l'image de Remco.
Très énervé, comme d'habitude, souvent.
Demandant de l'aide à Jorgensen, ce qui a beaucoup fait rigoler Jorgensen, mais... Mais après, le seul truc, c'est que la seule différence avec Glasgow, c'est que les autres n'y ont pas cru au départ.
Ouais, après, pour moi, ça ne changeait pas la fin du film. Hein. Je veux dire, si Pogacar, si, comme tu dis, Pierre, Remco Evenepoel, Van Der Poel, etc., le suivaient, l'attaque aurait été plus tardive, peut-être à 50 kills, à 40 kills de l'arrivée, mais au final, à mon avis, il gagnait quand même. Je pense qu'il était vraiment au-dessus du lot, au-delà du numéro qu'il a fait d'attaquer à 100 kills, ce qui est vraiment surprenant. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a fait 80 km au Strade Bianche, mais c'est en début d'année, la concurrence, c'est pas la même. Hein. Il gagne devant Skeuins et Van Gils, c'est
ouais. Très bon coureur, mais c'est pas Moritz, Martinez, Laporte.
C'est pas les championnats du monde non plus. Mais en fait, ce qui est choquant ou surprenant, c'est de réussir à faire 100 kills, enfin attaquer à 100 kills de l'arrivée sur des championnats du monde et en faire 50 en solitaire. Mais voilà, en fait, lui et dans une moindre mesure Evenepoel, quand il est très bien, Mathieu Van Der Poel, en fait, il réinvente les codes du vélo depuis quelques saisons déjà. On peut mettre aussi Alaphilippe et peut-être Vingegaard là-dedans. Donc en fait, tous les scénarios qu'on avait avant où les leaders attaquaient, ils se retrouvaient entre eux, ils épaillaient les autres et ils s'expliquaient dans les 15 derniers kilomètres. Enfin, moi, j'ai fait des championnats du monde, notamment avec Thomas Vauclair à Valkenburg. Je veux dire, à 20 km de l'arrivée, il y avait encore 90 mecs et ça s'expliquait comme ça. Mais ça, c'est fini maintenant. Les coureurs, ils attaquent de loin, ça éparpille de partout et on voit des belles courses à chaque fois.
C'est oublié quand même que Remco Evenepoel a gagné Liège-Bastogne-Liège en partant à 35 km de l'arrivée. C'est oublié que Mathieu Van Der Poel.
Non, mais je suis d'accord.
C'est oublié
avec
que Mathieu Van Der Poel,
Arnaud,
sur l'Amstel Gold Race,
35,
avait coutume 40, de partir à 100 km de l'arrivée.
Mathieu Van Der Poel
a déjà attaqué à 100 km de l'arrivée. Et c'est juste que ça s'est bien organisé derrière. Pour revenir sur lui,
oui, mais
sur l'Amstel Gold Race, il l'a déjà fait.
Sur des 100 en t'échappant à 100 bornes.
Mais pourquoi
de
les derrière ça s'organise
mais
pas
parce que, mais alors, je sais pas, mais en tous les cas, ça n'était jamais vu. C'est pour ça que les gens trouvent ça surprenant aujourd'hui. Ne va pas dire le contraire. C'est du jamais vu.
La vraie question est pourquoi derrière ça ne s'est pas organisé.
C'est ça la vraie question.
Alors,
désolé.
Alors, écoutons ce qu'en dit Tadej Pogacar, lui aussi sur sa tentative. Est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'il a fait? J'ai lu qu'il trouvait ça stupide. On écoute sa réaction à lui avec le maillot de champion du monde sur les épaules.
Je n'arrive pas à croire ce qu'il s'est passé. Après ce genre de saison, je me suis mis beaucoup de pression, et pour mon équipe également. On est venu ici pour la victoire, je n'ai jamais abandonné jusqu'à l'arrivée, c'est juste incroyable, vraiment. Je n'arrive toujours pas à y croire.
Voilà. Alors, c'est pas le morceau de l'interview où il dit qu'effectivement sa tentative était un peu stupide. Mais bon, elle a réussi, donc elle n'est pas stupide. Elle est tout simplement culottée et exceptionnelle donc pour cette victoire de Tadej Pogacar. Alors maintenant, justement, intéressons-nous à la poursuite qui n'a pas réussi à véritablement s'entendre. Jérôme, il y avait pourtant tous les cadors qui étaient là, qui dans un premier temps sont fait piéger, mais qui auraient pu réagir. Pourquoi n'ont-ils pas pu s'entendre? Il y avait trop d'intérêts divergents, trop de cadors, justement, la poursuite de Poggi.
Trop de cadors, non, sur un championnat du monde il y a tous les cadors de toute façon, mais ce qui est surprenant, c'est que alors tout de suite la Belgique ont pris la barre, ils ont bien compris qu'il y avait un danger très très vite, ils avaient plutôt bien couru jusque là parce qu'ils avaient envoyé deux plus dans le coup avant où il y avait Sivakov notamment, mais là moi c'est plutôt les Pays-Bas de Mathieu Van Der Poel qui m'ont surpris, parce que là ils auraient dû mettre un ou deux mecs tout de suite avec la Belgique pour essayer de garder un petit écart et puis de collaborer ensemble pour réduire cet écart avec Tadej Pogacar. Ils sont pas entendu. Est-ce que, en fait, j'ai l'impression sur toutes les courses où il y a Tadej Pogacar qu'en fait, au moment où ils sortent, c'est comme si les autres coureurs, ils sont déjà là. Oh purée, on va jamais le revoir, on joue déjà la place de deux. C'est pas complètement le cas, mais je pense que ça leur trotte un peu dans la tête de dire purée, ça y est, quand est-ce qu'il va nous attaquer? Est-ce que c'est à 30, à 40, à 50 ou à 100 kills? Au final, ça va être pareil, on va jamais le revoir. Et puis voilà, ils sont là, ils se regardent, et vous l'avez dit, il n'y avait pas d'oreillette, c'est compliqué de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. La Belgique, eux, ils ont tout de suite mis en route, mais ils n'avaient pas pas un collectif. Sur le papier, il était très bon, mais il y a quelques coureurs quand même. Par exemple, je pense à Tish Benoit, je trouve qu'il n'a pas répondu vraiment présent. Tim Wellens, un peu limite. Et en fait, à 70 km de l'arrivée, c'est déjà le leader numéro 2, Van Gils, qui est déjà à la barre. Et il n'y a plus que lui avec Remco Evenepoel. Donc là, il y a eu une petite défaillance collective au niveau de la Belgique. Et je pense que les Pays-Bas, parce que finalement, c'est surtout la Belgique et les Pays-Bas qui auraient dû collaborer derrière pour essayer de limiter les dégâts. Les Pays-Bas ne sont pas venus. Et puis après, quand Remco s'est retrouvé tout seul, il fallait attaquer. Puis après, c'était un peu chacun pour soi.
Beaucoup d'observateurs disent qu'il a manqué Wout van Aert à l'équipe de Belgique hier pour justement essayer de...
C'est certain. Ouais. C'est certain parce que regardez les Jeux Olympiques. Je veux dire, Wout van Aert, il a fait le boulot pour Remco Evenepoel. Remco Evenepoel était bien sûr très très fort, mais il a muselé Mathieu Van Der Poel aux Jeux Olympiques. Et puis peut-être que s'il n'est pas là sur les JO, est-ce que le scénario est le même? Parce que Van Der Poel court peut-être différemment s'il n'y a pas Van Aert. Alors bien sûr qu'avec un Wout van Aert, avec toute l'expérience qu'il a et sa science de la course, peut-être que ça se serait passé différemment. Peut-être que simplement lui, il aurait été par exemple dans la roue de Tadej Pogacar et ça changeait tout le scénario de la course. Mais il n'était pas là et on peut la refaire 150 fois, ça ne changera rien au film.
Et non, ça ne changera rien au film. Il est donc en arc-en-ciel, Tadej Pogacar, qui remporte son 23e succès, je crois, de la saison en 55 jours de course, sachant qu'il a disputé quand même deux grands tours avec beaucoup d'étapes de plat réservées pour les sprinteurs. Son ratio de victoire lorsqu'il a décidé de l'obtenir, Pierre, est tout bonnement incroyable.
Ouais, là, c'est vraiment je gagne quand je veux. Hein, quand même. C'est un truc qu'on avait assez rarement vu. Et on comprend aussi pourquoi il a fait l'impasse sur le Tour d'Espagne pour ses championnats du monde, parce que le triplé lui tendait les bras. Et là, on a compris pourquoi quand il est parti à 100 bornes, c'est qu'il le voulait vraiment, vraiment, vraiment.
Pour vous, c'est la plus belle saison de la carrière de Poggi, quand on gagne Tour de France, Tour d'Italie, Strade Bianche. J'ai même vu tout à l'heure une comparaison sur Twitter avec une année exceptionnelle réalisée par Eddy Merckx en 72, où il gagne lui aussi un paquet de courses d'un jour et qui gagne le Tour de France et le Tour d'Italie. On a même l'impression que Poggi cette année a fait mieux que la plus belle saison d'Eddy Merckx, Jérôme.
Alors moi, j'aime déjà pas du tout comparer les époques. Oui, parce que...
On est forcé de comparer.
Non, mais on est forcé. Je suis d'accord. Mais pour moi, quand Tadej Pogacar arrêtera sa carrière, ça sera le plus grand coureur de tous les temps. Peut-être qu'il l'est déjà. C'est sa meilleure saison de loin. Mais quand même, Eddy Merckx, c'est un immense champion. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y avait 5-6 grosses nations à l'époque. Oui. C'était quand même pas le vélo de maintenant. Ça se court pas pareil. La densité n'était pas la même, etc. Tadej Pogacar, il fait une saison complètement incroyable. Sur tous le Giro et le Tour de France, il gagne 6 étapes. Il gagne quasiment toutes les courses qu'il fait. Pour moi... Maintenant, peut-être il est, en tout cas, si on devait comparer au niveau d'Eddy Merckx, voire peut-être même un petit peu au-dessus, et à la fin de sa carrière, ça sera le meilleur coureur de tous les temps.
La triple couronne, Arnaud, ça signifie quelque chose pour les coureurs du peloton? C'est tellement rare, il y en a
deux
qui l'ont réalisé.
Enfin, je suis pas sûr, disons que ça dit tout d'une saison qui a été exceptionnelle. Eddy Merckx l'avait fait en 74. Alors il y a plusieurs triples couronnes, bon, prenons celle-là qui est la triple couronne officielle, j'ai envie de dire.
La triple couronne royale.
Du cyclisme, voilà, la triple couronne royale, donc Giro, Tour de France, Championnat du Monde. Il n'y avait que Eddy Merckx qui l'avait fait en 74 et Stéphane Roche en 1987. Ça dit juste tout de la capacité d'un coureur déjà à être en forme d'un moment relativement tôt dans la saison, j'ai plus l'adjectif, à un moment relativement tardif, et surtout à être à venir et gagner quand il veut, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste exceptionnel. Après, il y a personne qui te parle de la triple couronne.
Non,
c'est non, pas
c'est un truc les connaisseurs.
Oui, et puis je pense que c'est un peu un truc de journaliste, je dirais. Hein.
Ouais, et puis même à l'époque où Eddy Merckx l'a réalisé le premier, personne n'en a parlé. Et lorsque Stéphane Roche a égalé cette performance en 1987, personne n'en parlait vraiment. Mais bon, voilà. Aujourd'hui.
Oui. Après, c'est tellement hasardeux et un peu improbable que ça peut pas être un objectif, parce que vous pouvez courir après toute votre carrière sans jamais la. Quand même deux grands tours et une course d'un jour qui est forcément
la plus mythique.
La plus mythique et aussi la plus compliquée.
Moi, je trouve plus significatif, par exemple, le fait qu'il n'y avait pas eu de vainqueur du Tour de France champion du monde depuis 1989, si je ne dis pas de bêtises, Greg LeMond. Ça, je trouve ça ça plus significatif déjà. C'est-à-dire que ça dit tout quand même de la capacité de ce coureur à être fort à la fois sur
les courses d'un jour
par étape et sur les courses d'un jour.
Ouais.
Enfin, je parle champion du monde de la course en ligne. Hein. Je sais peut-être sur le champion du monde du chrono, c'est possible, mais.
Ouais, parce qu'il y avait eu, alors c'était en deux ans d'intervalle, mais Cadel Evans aussi, qui avait été champion du monde en 2009 et qui avait gagné le Tour en 2011. Mais ouais, c'était sur deux ans d'intervalle. Mais voilà, ça montre des coureurs qui sont complets finalement, ultra complets, parce qu'au mois de juillet, on n'a fait que comparer Vingegaard et Pogacar, par exemple. Vingegaard, il n'a aucune course d'un jour à son palmarès, hein, quasiment. Il a presque gagné toutes les courses par étapes, mais pas les courses d'un jour. Puis Pogacar, il va aller gagner un Tour des Flandres, des Liège-Bastogne-Liège, championnat du monde. Et en fait, il peut gagner toutes les courses du calendrier.
Ouais. Eddy Merckx, interrogé par nos confrères de l'équipe aujourd'hui, dit « C'est évident qu'il est maintenant au-dessus de moi. Je le pensais déjà un peu au fond de moi-même quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur le dernier Tour de France. Mais ce soir, il n'y a plus de doute. » C'est quand même assez rare d'entendre Eddy Merckx reconnaître que quelqu'un l'a dépassé. Parce que jusque-là, je me rappelle ce qu'il disait sur tous ceux qui lui ont succédé en Belgique. Il avait quand même des mots assez durs sur ses adversaires. Là, il est quand même admiratif de la performance de Poggi. C'est rare d'entendre le cannibale s'exprimer comme ça, non ?
Ouais, surtout qu'il est, c'est pas le coureur qui, enfin l'ancien coureur qui fait des compliments le plus facilement,
oui,
hein, Eddy Merckx, parce qu'avec la carrière qu'il a eue, il en faut beaucoup pour l'épater, hein, quand même. Si vous gagnez un Tour de France, ça va pas épater Eddy Merckx, hein. Mais là, pour qu'il puisse dire ça, pour qu'il dise ça de Tadej Pogacar, voilà, ça montre quand même le respect qu'il a pour lui et puis l'admiration finalement. Et il sait que Pogacar a que 26 ans, qu'il a encore quelques années devant lui pour encore aller battre des records et pour encore, renforcer son statut de peut-être de meilleur coureur de l'histoire.
Mmh. Alors, la suite maintenant pour Poggi, qu'est-ce que ça peut être pour vous ? Parce qu'évidemment, quand on a tant gagné et tant gagné de courses mythiques comme il l'a fait, vers quel objectif peut-il encore se tourner ? Qu'est-ce qui pourrait encore
déjà,
être
juste,
à sa mesure ?
Je vous signale que l'an prochain au Rwanda, les championnats du monde, il y aura 5500 mètres de dénivelé positif, qu'au Canada, dans deux ans, ça va être encore
donc,
aussi un sacré chantier.
Une triple couronne mondiale.
Casalanche en France, dans trois ans, ça va être sympa aussi. Peut-être qu'il est parti pour quelques années à le porter, ce maillot.
Alors, je ne sais plus le nombre de records.
C'est trois d'affilée, Peter Sagan, 15, 16, 17.
Ouais. Ça peut être effectivement un objectif.
Voilà. C'était juste pour.
Mais le problème de cet objectif-là, c'est que ça flingue un peu l'autre objectif mythique des trois grands tours.
Ah!
Enfin, à un moment, il faut faire un choix sur. Peut-être pas parce que t'es Pogacar.
Trois grands tours dans la saison et le titre de champion du monde.
De gagner trois grands tours dans la saison.
Oui.
Ah ouais.
Ça,
moi, j'y crois pas.
Ça n'a jamais été fait.
Moi, je viserais plus un Paris-Roubaix comme objectif.
Alors, ça, oui.
Là, pour moi, ça le ferait vraiment rentrer dans
tous les monuments.
Tous les monuments.
Et Milan-San Remo, évidemment.
Mais Milan-San Remo, c'est un peu la pièce en l'air quand même pour lui.
Ouais, mais ça lui permettrait de gagner tous les monuments. Moi, à choisir, je préférerais qu'il arrive à gagner tous les monuments plutôt que les trois grands tours dans la saison. Mais je pensais comme toi, Pierre. Je veux dire, cette année, si les championnats du monde avaient été complètement plats, il serait peut-être allé sur le Tour d'Espagne. Il aurait gagné les trois grands tours dans la même saison. Donc voilà, il a encore des objectifs. Mais moi, j'aimerais bien qu'il s'attaque à Paris-Roubaix et puis qu'il gagne Milan-San Remo, même si c'est la loterie. Il en est largement capable. Il a déjà fait podium. Il y a quand même des objectifs. Mais
sur Milan-San Remo, son équipe a un plan. C'est juste qu'ils ne l'ont pas du tout appliqué cette année-là. Cette année, ils voulaient justement durcir la course beaucoup plus dans la Cipressa, ce qu'ils n'ont pas fait. Et du coup, et fort de ce qu'on vient de voir là pendant ce championnat du monde, je pense qu'on peut, sur Milan-San Remo, maintenant l'objectif c'est d'attaquer dans la Cipressa et de durcir énormément dans la Cipressa et après de partir tout seul.
Le problème c'est que c'est pas violent quoi. La Cipressa, les Capi, Poggio, c'est pas aussi violent que les 17% hier de la Zurich-Bergstrasse. Donc toujours, même s'il durcit la course, il aura toujours un Van Der Poel qui potentiellement peut lui venir sur le dos.
Mais après,
je trouve que comme tu dis, c'est vraiment pour moi la grosse pièce quoi, la grosse grosse pièce. Paris-Roubaix c'est encore une autre chose, je pense. En termes de puissance, il est vraiment très très fort et si son équipe décide à l'envoyer dessus, je pense qu'il pourra faire quelque chose.
Et il le dit hein, d'ailleurs, le Paris-Roubaix deviendra un objectif à un moment donné.
Oui, mais ça change aussi la saison. Qui prennent 5-6 kilos là quand même.
Souviens-toi sur le tour il y a deux ans, le tour 2022 où il avait fait l'étape des pavés.
Il est plutôt à l'aise sur les pavés. Hein.
Plutôt à l'aise jusqu'au moment où il a perdu tout le temps qu'il aurait pu gagner et qui lui a bien coûté à la fin quand même. Parce que la Jumbo est complètement éparpillée. Puis à la fin, il se fait avoir par Wout van Aert qui remonte tout le monde. Et en fait, manque d'expérience et manque.
Ah mais je et pense que de toute façon, pour gagner l'enfer du Nord, il faut aller s'y frotter un paquet de fois avant.
Ouais,
il aura envie de s'y frotter régulièrement.
Mais il avait fait effectivement un sacré numéro au début. Bah,
Oui, il faut aller s'y frotter, mais il va essayer Paris-Roubaix. Attention, ça ne se court pas du tout de la même manière que quand c'est des pavés de Roubaix sur une étape du Tour de France. C'est encore différent. Ouais. Mais par contre, il faut prendre le risque, s'il va faire Paris-Roubaix, il faut prendre le risque de se dire, attention, je vais là-bas et peut-être ma saison va se terminer à Roubaix parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise chute.
C'est le gros problème.
Et que sa saison soit terminée. Donc après, il y a aussi ses sponsors. On sait
mais c'est pour ça que Giannetti ne veut pas l'envoyer pour l'instant.
Mais voilà, il a quand même re-signé un contrat à 12 millions d'euros. C'est beau, l'histoire. Gagner les belles courses, etc. Mais derrière, vous avez aussi une équipe, des chefs qui vous payent et qui n'ont peut-être pas envie que votre saison se termine sur les pavés de l'enfer du Nord.
À ce rythme-là, Jérôme, tu peux chuter dans n'importe quelle course. On l'a vu, regarde non, mais bien ce qui s'est passé avec Vingegaard autour du Pays Basque.
Est-ce
que Paris-Roubaix est vraiment beaucoup plus dangereuse que toutes les autres courses que tu peux discuter? Oui, tu peux te faire...
Bah, le risque de chute est plus important. Après, c'est sûr que les chutes graves, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus qu'ailleurs. Mais...
Non, mais d'ailleurs, les chutes graves arrivent plus graves, des fractures et tout, ça arrive même plus souvent. Tu chutes dans une descente de col, tu te fais souvent même plus mal que sur des pavés de Paris-Roubaix, par exemple. Mais suffit d'un truc pas forcément ultra grave, mais ça te condamne quelques mois de préparation. On a vu quand il s'est cassé le scaphoïde face à Vingegaard, il ne faut pas qu'il ait quelques mois de préparation un peu moyenne, parce que sinon, ça ne suffira peut-être pas, quoi.
Ouais, enfin, c'est risqué de faire du vélo de toute façon en début de saison. Ça, si tu te mets dans le formol et que tu sors juste pour le Tour de France,
on veut pas son style.
On veut pas ça de la part de Poggi. Alors, même sa saison actuelle n'est pas terminée, Arnaud.
Absolument, il reste trois courses a priori. Donc, le Tour d'Émilie, les Trois Vallées Varésines et le Tour de Lombardie qu'il vient de remporter trois fois consécutives. Ouais. Donc, ça pourrait être une quatrième fois consécutive et on voit mal, compte tenu de son état de forme actuel, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher. Donc voilà, ça aussi, hein, ça va devenir un objectif, hein, parce qu'il est en train de battre tous les records aussi du côté de cette course du Tour de Lombardie. On parlait tout à l'heure de Vingegaard qui avait essayé de le suivre une année, en 2022, quand il avait gagné son premier Tour de France, Jonas Vingegaard. Il avait été éparpillé sur cette course-là par Tadej Pogacar. Donc, bref, voilà, trois courses italienne avec un monument de plus à aller chercher. Il y a toujours cette petite course au monument pour les deux hommes actuels que sont Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Donc voilà, la course continue, j'ai envie de dire.
Ouais, la course continue. On verra maintenant si la malédiction du maillot arc-en-ciel touche à son tour à Tadej Pogacar. C'est arrivé par le passé, même si c'est un peu moins le cas depuis quelques saisons, lorsque Van Der Poel ou Evenepoel évidemment décrochent ce maillot de champion du monde. Parlons justement des battus du jour. On a parlé tout à l'heure de leur tactique. Donc, la médaille d'argent revient à Ben O'Connor, qui fait quand même une belle fin de saison. Incroyable.
Ah oui, une saison exceptionnelle.
Incroyable sur la Vuelta. Il a failli quand même aller décrocher la victoire. Et puis là, deuxième. Et en plus, alors moi, je ne l'ai pas vu partir. Je ne sais pas, Jérôme, Arnaud, vous étiez à l'antenne.
On ne l'a pas vraiment vu partir. Parce qu'à ce moment-là, la réalisation était partagée entre Pogacar et le groupe Van Der Poel et Evenepoel. Et c'est vrai que on s'est rendu compte à 1,5 km de la ligne qu'il était tout seul.
Il est parti pas beaucoup avant, vraiment au bon moment où, quand tous les favoris se regardaient en disant bon, ok, on arrive au sprint et toi tu vaux quoi au sprint.
Et puis là, c'est le grimpeur qui est allé.
Le grimpeur, mais très bon rouleur. Et ouais, c'est là où on s'est dit, le grimpeur, mais il roule bien quand même. Et puis le temps de se dire ça, c'était fini.
Voilà, donc Ben O'Connor qui décroche la médaille d'argent et la médaille de bronze qui revient donc à Mathieu Van Der Poel, qui est resté un moment sous la menace, Arnaud, d'une disqualification pour avoir utilisé les trottoirs de Zurich pour remonter vers la tête de course. Normalement, c'est pas autorisé, ça.
Surtout qu'en plus, il l'a fait quand même de manière assez risquée. Je sais pas si vous avez vu les images à la télé, mais on l'a vu effectivement monter sur le trottoir alors qu'il y avait des gens. Enfin là, c'est pas juste un petit. On parle pas juste d'une petite remontée sur le bord de la route. On a vraiment un vrai trottoir. Il a sauté sur le trottoir pour effectivement dépasser quelques coureurs et il a manqué de percuter des gens. Moi, je sais pas si tu te souviens, Christophe, je l'ai vu dans le feu du direct et je l'ai dit.
Ouais.
Ça me paraissait quand même sympa parce que c'est Mathieu Van Der Poel et on peut se douter qu'il sait ce qu'il fait, mais c'est risqué. Oui, je trouve que ça reste risqué.
Pour aller jusqu'à la disqualification, le règlement est quand même assez clair là-dessus. J'ai été me pencher là-dessus. Hein. Il y a amende, point UCI retiré, etc. Puis après, il y a quand même un petit alinéa où ils disent que, en plus des amendes et des points UCI retirés, le collège des commissaires peut, dans des cas sérieux, procurant un avantage ou exposant à un danger, lors d'infractions répétées disqualifier un coureur. Voilà, là, il est vraiment monté sur le trottoir. Bon, c'est interdit, il va prendre certainement son amende et un retrait de points UCI, mais il n'y avait pas de spectateur. Il a fait 2,50 m sur le trottoir juste pour contourner un coureur et il est revenu. Ouais, je ne pense pas que les commissaires soient posés la question de le disqualifier ou pas. Après, il aura une amende, mais dans tous les cas, c'est interdit, c'est clair. Mais voilà, je ne pense pas qu'il risquait la disqualification pour ce geste-là.
Van der Poel qui monte donc sur le podium, on attendait peut-être un peu plus de lui. Il n'a jamais vraiment réussi, en dépit de ses tentatives, à se sortir, à s'extraire du groupe de poursuivants, Pierre. Hein. On le sent un peu moins saignant qu'il
était. Oui, après, le problème, c'est soit vous partez avec Pogacar, soit derrière, il faut partir à plusieurs. Parce que partir tout seul à la poursuite de Pogacar, c'est compliqué. Hein. Il faut être au moins deux ou trois. D'ailleurs, c'est quand Skuins et Bagnelli étaient à deux qu'ils se sont rapprochés le plus de Pogacar.
35 secondes.
Et là, partir à plusieurs, quand vous êtes Mathieu Van Der Poel, c'est là où ça devient compliqué. Parce que qui va partir avec Mathieu Van Der Poel? Donc là, en fait, c'est un dilemme terrible. C'est pour ça qu'ils se sont fait piéger en fait, par Pogacar. C'est que derrière, soit ils se mettaient d'accord, mais là, ça demandait quelque chose dont ils n'étaient pas capables, soit ils étaient coincés.
D'autant qu'ils n'étaient plus assez. Enfin,
oui. Après, tu peux partir à deux ou trois avec Remco, c'est un bon rouleur. Ben O'Connor, c'est un bon rouleur.
Ouais, oui.
Par contre, à un moment, il faut se mettre d'accord. Il faut se dire, on y va à fond.
C'est
et quand
ça qui était hyper étonnant, quoi. C'est ça qui était hyper étonnant. Ça passait. Bon, enfin bref, on en a déjà parlé.
Ça,
mais
ça peut discuter comme ça au sein d'un groupe de poursuivants, Jérôme, en disant, bon, ben voilà, Poggi, il a une minute d'avance. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On se met d'accord, on y va tous les trois. Ou alors, c'est des choses qui n'arrivent jamais.
Si, bien sûr, ça discute. Alors, dans un premier temps, et j'imagine c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont un groupe, ils se disent, allez, on essaye de bien s'entendre, tout le monde prend ses relais, etc. On essaye de se rapprocher un maximum ou au moins de limiter les dégâts sur Pogacar. Mais après, souvent, et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que quand Bagnelli et Tom Skuyens sont revenus pas très loin, on a vu Mark Hirschi attaquer. Du coup, l'entente derrière était plus très bonne et c'était des attaques individuelles. Comme a dit Pierre, tu peux t'appeler Hirschi, Evenepoel ou Van Der Poel. Si tu pars tout seul, ils n'allaient jamais reboucher le trou sur Pogacar. Donc oui, il y a une entente au début. Après, est-ce qu'ils auraient pu se parler? Vous disiez par exemple prendre Ben O'Connor avec nous, mais Ben O'Connor, il n'a aucun intérêt à sortir avec un Van Der Poel ou un Evenepoel parce qu'il sait que s'il arrive avec eux au sprint, de toute façon, il est mort. Donc lui, son intérêt, c'était comme ce qui s'est passé, d'arriver jusqu'à la ligne et de fausser compagnie à deux bandes de l'arrivée pour aller chercher sa médaille. On aurait pu avoir une entente Van Der Poel, Evenepoel, Hirschi par exemple, parce que c'était peut-être les trois plus rapides du groupe derrière. Mais c'est toujours compliqué après, au bout d'un moment, on pense à la médaille et puis bon, ils avaient 270 bandes de course. À un moment, t'es plus trop lucide non plus dans dans ta tactique de course.
Très bien, Remco Evenepoel pour sa part termine cinquième. Il ne réussit donc pas le double doublé olympique et mondial. On l'a vu, Remco assez frustré par le manque de soutien dans le groupe de poursuite, mais ça, il est tout le temps en train d'engueuler ses compagnons d'échappée et ça fait rigoler certains. Hein,
il a dit aussi qu'il avait donné le maximum. S'il le dit, ça doit être vrai, mais je pense qu'il aurait peut-être pu donner plus, mais pas dans cette configuration de course.
Le premier Français, quant à lui, il se classe 10e et il se nomme Romain Bardet. C'est l'heure de notre baromètre des tricolores.
RMC, le baromètre des Français.
Voilà, un top 10 à l'arrache pour nos Bleus, dont on attendait beaucoup dans cette course, mais qui ont semblé désorganisés, il faut le dire, par la chute et l'abandon de Julien Alaphilippe très tôt dans la course. Alors, que s'est-il passé pour Julien? La réponse, c'est Thomas Vauclair qui la porte au micro d'Arnaud.
Julien, je suis arrivé sur place une vingtaine de secondes après sa chute. Le médecin également est arrivé en même temps, le médecin de la course. Tout de suite, il a pas perdu connaissance. Son épaule, il m'a tout de suite dit j'ai très mal à l'épaule. Je faisais un peu le traducteur avec le médecin. Une fois que notre docteur qui suivait la course pour rejoindre le lieu d'arrivée est arrivé également, j'ai dit à Julien, il faut que je te laisse. Il a toujours gardé ses esprits, il m'a parlé. Son épaule était déboîtée. Une demi-heure après, elle avait été remise en place, je ne sais pas exactement quand, et il a été pendant la course de retour à l'hôtel. Donc voilà, on va attendre avant de tirer des conclusions hâtives, mais en tout cas pour son épaule, c'est réglé. Et il faut aussi relativiser quand c'est les événements récents. Voilà, bien sûr que c'est une chute costaud, bien sûr qu'il est blessé, bien sûr qu'il a manqué à l'équipe de France. Mais si on a un petit peu de mémoire sur les trois derniers jours, il y a des des choses bien plus dramatiques encore que ça dans la vie.
Voilà, Thomas Vauclair qui fait évidemment référence au drame qui a marqué cette semaine de championnat du monde avec le décès de la jeune Suissesse Muriel Führer, décédée des suites de sa chute lors de la course féminine junior jeudi dernier. Un drame terrible qui a ému tout le peloton, Arnaud. Oui. C'est vraiment, c'était dans toutes les conversations, dans tous les esprits, cette gamme.
Alors déjà, ce qui est, enfin, c'est de toute manière terrible, mais là, c'était encore plus terrible, c'est qu'elle a vraiment chuté à quelques kilomètres de chez elle, Muriel Führer, pendant la course junior. Ça, c'était vraiment absolument atroce. Elle a chuté vraiment sur ses terres, quoi. Ça, c'est vraiment terrible. Elle a été transportée à l'hôpital. L'UCI a fait part d'un état très critique jeudi soir, et puis on a appris son décès donc vendredi matin. Et c'est vrai que moi, quand je suis allé voir Julien Alaphilippe vendredi soir pour la traditionnelle conférence de presse d'avant d'avant course, c'est lui qui a pris la parole là-dessus. Il a dit d'abord, d'abord avant de répondre aux questions, je voudrais juste qu'on pense à Muriel, parce que moi, ça m'a fait quelque chose quand même de la voir comme ça. On sait que le vélo est un sport dangereux, mais on n'a pas envie de se retrouver là. Donc oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'émotions sur tout le peloton, et il y a eu des minutes de silence de toute manière. Il y a eu annulation des festivités, mais bon. On se souvient aussi de ce qui s'était passé pour
Gino
Madère l'an passé dans la descente
d'un col
sur,
aussi,
voilà, qui était sur ses terres aussi. Voilà, enfin bref, c'est vraiment terrible. Ça nous rappelle à la dureté de ce sport, à la cruauté de ce sport. Et je pense que les cyclistes en ont tous conscience. Mais malgré tout, faut quand même remonter sur le vélo, quoi. Donc voilà, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Mais oui, c'était vraiment dur à vivre. Ouais.
Un petit mot au niveau des responsabilités, parce qu'elle a chuté en montée, enfin elle a disparu de la route, elle est tombée dans un ravin, c'est ça?
Alors écoute,
on l'a pas retrouvée tout de suite. Enfin, elle a pas.
Oui, les secours ont mis un petit peu du temps à arriver. L'UCI a eu interdiction totale par les autorités, notamment par la police suisse, de communiquer sur D'accord. les circonstances. De l'accident, donc on en apprendra certainement plus dans les prochains jours, mais oui, manifestement les secours ont mis quelques minutes à arriver. Ouais. Ouais.
Terrible, évidemment, une nouvelle fois le vélo touché en son cœur par ce drame, donc le décès de la jeune Suissesse Muriel Führer. Pour Alaphilippe, c'est évidemment bien moins grave, hein, mais une nouvelle fois le voilà au sol, blessé dans sa chair. Les gamelles, Jérôme, qui auront bien plombé sa carrière depuis quelques saisons maintenant, il tombe régulièrement, Julien, et voilà. Et malheureusement, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est une longue série. Et la loi des séries pour lui est un peu longue là, sur ce coup-là.
Ouais, ben surtout ces dernières années, c'est vrai que Julien Alaphilippe, il a connu un début de carrière un peu idyllique, tout se passait bien, et puis depuis cette chute à Liège-Bastogne-Liège, hein, cette terrible chute, ben voilà, depuis là il y a un peu tout qui va mal pour le coureur français, même s'il refait bien sûr des performances. Mais là, ce qui est d'autant plus frustrant au-delà de la chute, c'est qu'il semblait vraiment avoir une condition physique très très bonne.
Il le disait,
peut-être pas poursuivre Tadej Pogacar, mais quand on voit le scénario de la course derrière, il avait largement une médaille dans les jambes. Donc c'est frustrant pour lui, frustrant pour l'équipe de France. Et puis bon, quand tu te prépares à un objectif, je sais ce que c'est, et puis qu'au dernier moment sur la course, tu chutes, et que alors voilà, tous tes efforts sont pas anéantis, il va peut-être pouvoir continuer sur la fin de saison, mais mentalement c'est très dur. Et quand tu les cumules comme ça, saison après saison, sur des objectifs, ouais, c'est quand même dur à vivre. Et puis il ne faut pas oublier l'aspect mental aussi. À un moment donné, quand tu tombes tout le temps, il est comme nous, hein, Julien Alaphilippe. Il se dit, purée, est-ce que j'ai pas de bol? Est-ce que je ne sais plus faire du vélo?
Parce qu'on a longtemps loué son adresse sur le vélo.
Mais bien sûr.
Autant
un Primoz Roglic, on sait qu'il n'est pas très adroit sur un vélo. Il est arrivé tard. Julien, lui, il est passé par le cyclocross. C'est un funambule du vélo. Et comme quoi, ça n'empêche pas d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et de chuter. Donc voilà, mais ça, psychologiquement, quand tout va bien, c'est bon. Mais quand vous posez 2-3 question, vous n'êtes pas au bon endroit dans le peloton, et puis vous êtes pris dans les gamelles. Et quand vous sacrifiez toute votre vie pour être prêt sur une saison, la nourriture, les stages, etc., vous êtes loin de votre famille, et ben voilà, ça, c'est dur mentalement, et à chaque fois faut se relever physiquement, et faut se relever aussi mentalement.
Et sans Alaphilippe, évidemment, c'est pas la même chose, hein, Pierre, pour l'équipe de France, quand tu perds ton leader comme ça. Alors, même si Vauclair nous a habitués à changer ses plans en fonction des circonstances de course, mais là, quand tu perds ton patron dans la course, c'est quand même compliqué.
Ouais, là, il n'y avait pas vraiment de plan B, même si on a vu d'abord Gaudu et ensuite Bardet qui étaient au moins présents. Donc, et puis Sivakov qui était quand même à l'avant et qui a fait ce qu'il a pu. Après, est-ce qu'il aurait dû ou pas relayer relayer Pogacar, c'est ça, c'est un débat pour pour avoir pendant des heures et des heures. Mais c'est sûr que effectivement, quand il était venu dans le podcast la semaine dernière et qu'il avait dit bah, je prends pas Christophe pour, parce que dénivelé, parce que s'est dit bon, en fait il y a une carte, il y a une carte Julien, il y en aura pas forcément deux ou trois. Et du coup, sans la carte Julien et vu la course, vu la stratégie que Pogacar a instillée, c'est-à-dire Pogacar, c'est un peu l'anti-Vauclair, hein, c'est j'y vais à fond, je donne tout ce que j'ai et le plus fort gagne et c'est pas le plus malin. Donc forcément, tous les nœuds au cerveau que peut se créer Thomas Vauclair pour inventer des tactiques, et quand ça, c'est le plus fort gagne, c'est le plus fort gagne. Hein, c'est...
Ouais. Ouais, je pense qu'après, il a assez vite rebondi en donnant le leadership, on va dire, à Romain Bardet. J'ai eu l'impression que c'était un peu revenu sur Bardet et Gaudu dans un deuxième temps d'ailleurs. Mais Romain Bardet, il avait déjà fait quelques efforts avant et c'est peut-être ça qui lui coûte pour basculer dans le groupe O'Connor, Van Der Poel et pourquoi pas aller jouer la victoire. C'est ça qui est encore plus frustrant, parce que s'il n'y avait pas eu la chute de Julien, c'est quasi certain qu'il était dans ce groupe-là et il y avait peut-être une médaille au bout, quoi.
Un tout petit mot sur Sivakov, donc, qui a eu l'honneur d'accompagner durant un long moment le futur champion du monde, qui est aussi son leader tout au long de l'année. Toujours étrange, hein, Pierre, tu y faisais allusion, de voir deux équipiers habituels se transformer en adversaires l'espace d'une journée. Enfin, adversaires...
Oui, là, c'est pas vraiment...
Pas vraiment, quand même.
Non, mais après, il a pas roulé comme Tratnik a roulé pour Pogacar, comme si c'était son leader sur la Vuelta. Hein. Il a joué la carte de l'équipe de France.
95-5, quoi.
Voilà, il a donné quand même quelques relais. Histoire, en fait, il s'est assuré la paix sociale aussi pour lui, hein, parce que...
Bah, il a raison quand même de donner quelques relais. Ouais. Enfin, je pense que c'est aussi légitime. À un moment, je pense quand même que dans sa tête, ça doit trotter pendant 27 km.
Aller chercher la médaille
d'argent.
Ouais, ouais.
Bon, bien sûr, et s'il ne lui prend pas les quelques petits relais qu'il lui a pris sur le plat, Pogacar, il les paye direct. Hein, parce que c'est... que Pogacar roule tout seul ou qu'il tracte un mec, il préfère rouler tout seul. Donc là, il a dû dire, ok, je vais moins vite dans les bosses, je te garde avec moi le plus longtemps possible, mais tu me prends quelques relais sur le plat. Ça, c'était logique pour tous les deux et c'était du bon sens. Et pour moi, il n'y a pas eu d'entente coureur UAE, etc. Non, c'était dans le bien de l'équipe de France et de Sivakov pour aller chercher une médaille. À Pavel Sivakov, c'était sa meilleure chance finalement. Ça n'a pas marché, mais ça aurait pu le faire.
Sivakov, qui a donc été attendu par Poggi pendant un moment avant de finalement lâcher. J'ai essayé de le suivre, mais je me suis clairement brûlé les ailes. Son niveau est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. C'était un rouleau compresseur. Voilà ce que dit Pavel Sivakov de son leader. Et on le comprend. Le meilleur français, donc, hier, c'est Romain Bardet, qui, pour son dernier mondial, signe un top 10. Alors, content ou déçu, Romain Bardet ?
Content, je sais pas. On a pas mal de regrets. Franchement, c'était... pas mal aujourd'hui, mais on a pris un coup au moral en perdant Julien sur chute très rapidement. Après, voilà, j'ai été assez actif en début de course aussi. Et quand je vois qu'il manque 200 mètres en haut du dernier faux plat pour basculer devant, ouais, c'est cette énergie, voilà, je sais où je peux la retrouver. Donc, je reviens aussi de nulle part à 60 km de l'arrivée. Je suis dans le bon groupe et puis après, je me suis fait un peu enterrer. Donc, je fais beaucoup d'efforts à contre-temps aujourd'hui. Et voilà, c'était, je pense, une course très dure. On a tous fait notre maximum, mais sur le résultat brut, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux.
Moyen de faire mieux, nous dit Romain Bardet. Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de faire mieux pour cette équipe de France, Arnaud ?
Ah bah après, c'est sûr que s'il bascule, je pense qu'il est, il a largement les moyens de déjouer les pronostics. Mais bon, c'est vrai qu'au final, tu sprintais quand même pour la médaille de bronze, dans la mesure où Ben O'Connor était parti. Bon, t'avais quand même des mecs plus rapides. Même si Bardet est rapide au sprint, oui, il y avait moyen de faire mieux. Je pense que franchement, enfin, moi, la médaille, je me faisais absolument plus aucune illusion. Hein.
On a déjà eu tellement de miracles avec...
Oui, oui, qu'on se dit qu'il va y avoir des miracles à chaque fois, mais non.
Ces médailles qui tombent de nulle part, on aurait pu... Oui, on peut toujours faire mieux, et je comprends qu'il ait des regrets. Après, c'est pas indécent non plus, et ça peut pas sourire à tous les coups. Surtout que là, vraiment, c'était un scénario de course anti-Vauclair et anti-équipe de France, dans la mesure où on n'avait pas... la puissance brute pour poursuivre Pogacar ou poursuivre ses...
Non, mais Tactiquement, par contre, moi je trouve que l'équipe de France, en ayant perdu Julien Alaphilippe, a bien couru. On parlera après de la course fille, mais c'était rien à voir avec elle. On avait quand même Sivakov qui était dans le groupe qui avait anticipé et après qui est parti avec Pogacar. Et derrière, on avait quand même Bardet, Gaudu longtemps dans le groupe Van Der Poel. Et si Bardet, comme il le dit dans son interview, fait pas quelques efforts avant, bah peut-être ça lui suffit pour basculer et pour pas péter les. Enfin voilà, il pète à 200 mètres du haut du faux plat où Remco Evenepoel était limite aussi. S'il arrive à basculer là, qui nous dit qu'il nous fait pas une O'Connor pour aller chercher une médaille? Parce que Van Der Poel, Skuyens ou Evenepoel, ils n'allaient pas surveiller Bardet au sprint. Donc pourquoi pas, ça aurait pu shadon. Je trouve que collectivement, franchement, ils ont pas fait de faute, les coureurs français. Ils ont fait avec leurs moyens. Ils n'étaient pas les plus forts. Il a manqué Julien Alaphilippe, mais on avait des. Dès qu'il y avait des mouvements de course, les coureurs français étaient là quand même. Ils n'ont jamais été piégés. Au final, ouais, c'est entre guillemets qu'un top 10. Et c'est vrai que Thomas Vauclair nous habitue à chaque fois à des médailles. Mais ça ne peut pas être le cas à tous les coups. Mais en tout cas, ils ont été présents tout le long de la course.
Un mot, messieurs, avant de conclure donc, sur la course féminine remportée par la Belge Lotte Kopecky, qui a profité, elle, de la stratégie suicidaire de la formation néerlandaise, qui illustre bien le problème de ces courses particulières, hein, que sont les mondiaux ou les Europes. Hein. Pas facile, ouais, de construire un.
Enfin, les Néerlandaises, elles en tiennent quand même une couche. Hein, parce qu'après s'être sabordées au JO en 2021 à Tokyo,
oui,
et avoir laissé une sombre autrichienne, enfin, que je respecte beaucoup, mais une coureuse autrichienne inconnue au bataillon gagnée, là, Demi Vollering, en fait, elle a commis ce qu'il ne fallait surtout pas commettre. Enfin, Pierre, elle attaque, en fait, elle lâche notamment donc Marianne Vos, qui, ouais, a priori au sprint devrait pouvoir avoir une médaille quelques minutes plus tard.
Non, mais là, si le sélectionneur néerlandais est encore en poste à l'heure où on se parle, c'est complètement fou, parce que il y a eu cette dinguerie de Demi Vollering qui a attaqué pour lâcher Marianne Vos. Mais c'était pas le truc le plus fou qu'on ait vu. On a vu quand même une néerlandaise qui était à l'attaque, il y avait Marianne Vos qui contrait, et c'était une troisième néerlandaise qui roulait en tête du peloton. C'est-à-dire, c'est un truc, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Et derrière, on a une course complètement folle grâce à ça, parce qu'à la limite, si les Néerlandaises avaient joué le tout pour Vollering, j'aurais pu le comprendre. Mais même ça, elles n'ont pas été capables de le faire, parce qu'elles ont chacune à jouer sa carte en ayant un peu envie de flinguer sa compatriote. C'était quand même...
Si elle court correctement, Lotte Kopecky est jamais championne du monde.
Ah non, non.
Jamais elle conserve son titre.
Là, en fait, on a eu vraiment... à chaque fois, on voyait très bien qu'il était entre la course homme et la course femme, qui était le plus fort. Et dans un cas, le plus fort a pris ses responsabilités et est parti. Bon, un peu tôt, mais est parti. Et voilà. Et dans l'autre cas, on a eu le contraire avec quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités ou trop tard, ou de façon pas assez tranchante, ou en gardant à chaque fois sous la pédale parce qu'elle ne voulait pas que. Et du coup, on a eu cette bouillie de course, et bouillie pour les Néerlandais. Hein, parce
oui,
que pour,
oui, pour regarder, c'est plutôt sympa.
Pour les téléspectateurs, ouais, c'était exceptionnel. Hein. Moi, j'ai vraiment...
Franchement, ça gagne, oui. Encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais la semaine dernière, ça gagne vraiment à être regardé, hein, ces courses-là. Et puis, on commence quand même à avoir une densité. Là, tu sens que ça se professionnalise depuis plusieurs années, mais là, il commence vraiment à y avoir une densité assez impressionnante. Et t'as 20 filles qui peuvent potentiellement, voilà, se battre pour aller chercher le titre mondial. Ah, oui. L'autre jour, quoi. Donc
c'est clair, ça vaut la peine d'être regardé, et encore plus ce championnat du monde, pour voir ce qu'il faut pas faire avec les Néerlandaises. Oui. Ça, c'est clair. Voilà, ça a montré dans toutes les écoles de cyclisme.
Ah, mais ça, c'était l'anti-équipe de France pour le coup. Voilà, ça aussi, c'était l'anti-Vauclair.
Il faudrait qu'il aille peut-être leur donner une leçon de stratégie à Thomas Vauclair, aux Néerlandais et aux Néerlandaises surtout. Les Françaises, elles non plus, n'ont pas vraiment pesé sur la course. La meilleure d'entre elles, c'est Juliette Labousse. Elle ne prend que la 12e place. On attendait sans doute un peu trop du retour de Pauline Ferrand-Prévot. On s'est emballé sur le retour de notre championne olympique de VTT, mais elle était plutôt mesurée en disant voilà, c'est juste pour prendre des repères. Malheureusement, les conditions climatiques étaient telles, Arnaud, que elle a vite perdu pied.
Alors je pense que c'était vraiment un jour sans pour Pauline Ferrand-Prévot. Je signalerai quand même que la quatrième qui a dit qu'elle était malade, elle a vomi pendant la course. Alors je sais pas, hein, je dis pas qu'elle aurait pu rivaliser, je n'en sais absolument rien. En tout cas, voilà, on s'était posé la question de savoir si ce passage du VTT à la route aussi rapide pouvait vraiment être réaliste. Il y a une réalité, c'est que Puk Pieterse, par exemple, la néerlandaise qui a été quatrième de la course VTT au JO, elle a été sacrée sacrée championne du monde des sports. Elle a terminé 13e de la course élite. Donc oui, c'était manifestement possible. Après, je pense que Pauline Ferrand-Prévot a quand même connu un souci, oui, qui a fait que ça l'a empêché d'aller au bout. Franchement, je reviens sur les conditions de cette course féminine l'autre jour. Alors, elles sont allées au bout, mais c'était affreux. Froid, pluie, brouillard, route mouillée. Enfin, c'était vraiment, c'était un chantier.
Ouais. Un vrai chantier, et donc qui a permis à Lotte Kopecky de se succéder à elle-même. Voilà donc pour ce championnat du monde. On s'est régalé tout au long de la semaine. Il reste encore quelques courses.
Bien sûr, Paris-Tours dimanche, le Tour de Lombardie le samedi suivant.
Voilà. Bref, on a encore quelques belles.
Et puis le parcours du Tour qui commence à se révéler. Je vais t'amener à Toulouse, Christophe, je crois, sur le prochain Tour de France.
Mais moi, je vais t'amener en Normandie, faire un petit tour en Normandie, un petit tour en Bretagne. On va peut-être aller sur le Ventoux. Il y a plein de choses qui commencent à sortir.
T'as eu Christian Prudhomme au téléphone ou quoi ?
Figure-toi qu'il m'a appelé l'autre soir. Ah. Ils étaient en pleine forme avec David Douillet à minuit. j'ai pas répondu parce que quand ils sont dans cet état-là, les deux, il vaut mieux pas répondre. Je les embrasse quand même. Allez, bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Ciao, ciao. Salut.